d'être venu. Ça fait plaisir de voir autant de monde le dimanche matin. On va parler de la fin du monde. En plus, vous êtes levé pour qu'on vous parle de la fin du monde. Autant dire que c'est pas forcément le sujet le plus joyeux. Donc, vous êtes d'autant plus méritant ce matin. Quoique si, ça peut être joyeux. Après tout, on va pouvoir en discuter. Avec nous, nous avons trois invités. Nous avons Alain Musset qui vient de sortir début octobre Le syndrome de Babylone, géofiction de l'apocalypse. Alors, on va pouvoir justement parler de cet apocalypse dans la science-fiction. Nous avons juste à côté Gérard Klein. Gérard Klein, éditeur de la collection Ailleurs et Demain, et aussi auteur. Donc, on va l'avoir non seulement à double titre, donc on va pouvoir un peu examiner son cerveau d'écrivain, comment est-ce que lui il verrait la fin du monde, mais en plus avoir son point de vue d'éditeur, parce que notamment il a commis beaucoup d'anthologies et notamment une histoire de fin du monde avec de nombreux auteurs, notamment anglo-saxons. Donc on pourra aussi parler, autant dire que la fin du monde ça le connaît et il sait comment ça se passe. Et puis nous avons Tommaso Pincio qui est avec nous. Tommaso Pincio, alors on va parler, il y a évidemment trois romans aujourd'hui en France, il y a Un amour d'autre ton, et puis il y a Cinacita, je ne sais pas si l'accent est bon, hein. Mémoire de mon crime atroce, et on va parler de Rome, une espèce de chute de Rome, bon, on en discutera, et la traduction est assurée par Céline Iveri. Voilà. Qui nous fait le plaisir donc d'être sur cette table ronde. Alain Musset, peut-être une première question. Quels sont les grands, c'est une question qui s'adresse aussi à vous, Gérard. Quelles sont les grandes thématiques de fin du monde en science-fiction?
Les thématiques, elles sont, je dirais, elles touchent tous les domaines, hein, et depuis le début et même avant que la science-fiction existe. Je dirais, il y a, je crois, des bases. Hein, des thèmes qui sont récurrents et puis des thèmes qui sont plus conjoncturels, qui dépendent un petit peu de la mode et du moment où ça se passe. Donc parmi les fins du monde récurrentes qu'on va retrouver et qui sont déjà toutes consignées dans l'Apocalypse de Saint-Jean, puisque Saint-Jean avait tout prévu, c'est le meilleur roman de science-fiction à mon avis à ce sujet. Donc il y a évidemment les météores qui peuvent nous tomber sur la tête, il y a la peste, il y a la guerre, il y a les tremblements de terre. La Babylone de l'Apocalypse de Saint-Jean est détruite par un grand tremblement de terre, donc on sait à quoi s'attendre. Et ce sont des choses qu'on va retrouver régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Un des premiers grands romans qui, je parle vraiment de romans, hein, qui illustre la fin du monde, ce serait peut-être Marie Shelley, avec 1823, le dernier homme. Alors là, c'est la peste, la vieille terreur de la peste, qu'on va retrouver sous différentes formes, avec, par exemple, l'armée des 12 singes. Ben, c'est une sorte de peste, finalement, qui va emporter toute l'humanité. Donc c'est récurrent, et puis c'est Soderbergh avec Contagion, etc., etc. Alors ensuite, évidemment, il y a des peurs qui sont, elles, plus conjoncturelles, liées à une époque en particulier. La peur du nucléaire, évidemment, avec Hiroshima, mais même avant Hiroshima. Je l'avais dit hier, mais en 1914, Henry George Wells, donc 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, invente ce qui pourrait être une guerre atomique entre la France et l'Allemagne dans The World Set Free. Donc ce sont des choses qui vont rester. Et à l'heure actuelle, la grande fin du monde qui nous est annoncée, c'est celle de l'écologie. On est dans une marmite bouillante et ça va mal se passer pour nous. Donc voyez comment ça se passe.
Gérard.
Oui, d'abord, je ferai une réflexion préliminaire, c'est que nous sommes aux prises avec tellement de crises et d'ennuis variés qu'après tout, la fin du monde, c'est une très bonne nouvelle. Vu que ça se passe bien plus, ça fera plaisir à mon ami Jean-Pierre Andrevon, qui est dans Le Monde Enfin, où on peut trouver en anagramme pratiquement la fin du monde, imagine la disparition de l'humanité avec jubilation. Alors, dans la science-fiction, je dirais qu'il y a deux grandes catégories de fin du monde. Il y a les fins du monde qui viennent en quelque sorte de l'extérieur, pour lesquelles que subit l'humanité, mais sur lesquelles elle ne peut rien faire. Il y a les fins du monde par le feu, il y a les fins du monde par le froid, il y a les fins du monde parce qu'un aérolithe heurte la Terre. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Et il y a, d'autre part, ce qui est très intéressant, c'est les fins du monde qui sont provoquées par l'humanité elle-même. Le thème le plus récurrent, comme l'a indiqué mon voisin, étant celui de la guerre nucléaire, pratiquement durant tout le XXe siècle, enfin, surtout à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de la fin, mais alors la fin du monde écologique que John Brunner, par exemple, dans Le Troupeau aveugle, évoque très bien, est un deuxième thème très important. Alors je crois que c'est cet aspect des choses, l'humanité s'auto-détruisant en quelque sorte parce qu'elle détruit son biotope, son milieu, c'est un thème très très fréquent dans la science-fiction. Et là il y a une troisième catégorie qui est pas tout à fait la même que la première, c'est la fin du monde qui résulte de l'intervention d'extraterrestres, hein, qui l'autre décide de nous détruire. Et avec une autre variante encore, c'est quand le robot, le superordinateur, décide de détruire l'humanité. Alors, c'est pas tout à fait une fin du monde parce que lui continue, les extraterrestres aussi d'ailleurs.
Une petite question à Tommaso Pinchot. Alors je précise simplement qu'en plus il a un train, donc on va d'autant plus en profiter car il faudra qu'il nous quitte à midi et quart. Est-ce que la fin du monde, vous en avez beaucoup lu dans votre parcours de lecteur ? Est-ce que c'est une thématique qui vous intéresse plus particulièrement ?
Si. Devo dire che come appassionato e anche come scrittore di romanzi d'argomento fantascientifico, la fine del mondo, l'apocalisse, è probabilmente il tema che mi attrae maggiormente. Vuoi fare a pezzi? Invece che faccio tutto.
En tant que passionné et écrivain de romans de sujet science-fiction, l'apocalypse est un sujet qui m'intéresse énormément.
Et sono m'intéresse. Ovviamente d'accordo con i miei amici sulla natura, sui generi prevalenti della, diciamo così, dell'argomento apocalittico.
Je suis d'accord avec mes amis sur les genres, sur les thématiques concernant l'apocalypse.
A tutti i vari generi che sono stati giustamente citati, io ne aggiungerei soltanto uno che è diventato sempre di, come dire, sempre più di maggiore attualità ed è anche un tema di cui mi sono occupato in uno dei miei romanzi ed è, diciamo così, la catastrofe economica.
Je rajouterai à ces genres qui est très d'actualité et qui est la catastrophe économique.
La mia idea, infatti, riguardo l'apocalisse, non è tanto che il tema dell'apocalisse è la fine del mondo in sé per sé, ma la fine della storia, cioè la fine della possibilità di raccontare la propria società con una determinata prospettiva.
Mon idée d'apocalypse sur l'apocalypse, c'est que c'est pas la fin du monde en soi, mais que c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'impossibilité de décrire notre société et notre société.
Oui, oui. infatti la più grande apocalisse della storia dell'Occidente, dal mio punto di vista, è la caduta dell'Impero Romano, che è stata, diciamo così, la prima grande invasione, tra virgolette, extraterrestre. Dal punto di vista della prospettiva dei romani, i barbari erano gli extraterrestri della guerra dei mondi. E, di fatto però il mondo non finì con la caduta dell'impero né con l'arrivo dei barbari, cambiò il racconto, cambiò la prospettiva storica. È un po' come nel romanzo famoso di Richard Madison, I'm a Legend, dove l'apocalisse è un problema di come si vede la storia, se la si vede dall'ultimo uovo rimasto è apocalisse, se la si vede dal punto di vista dei vampiri che hanno preso il sopravvento del mondo, non è un'apocalisse, è semplicemente il mondo così come è diventato.
Alors, la plus grande apocalypse de l'histoire de l'Occident, à mon avis, c'est la fin de l'Empire romain. Du point de vue des romans, c'est une invasion extraterrestre. C'est la première invasion extraterrestre. Mais ça veut pas dire que le monde s'est terminé. En fait, c'est la perspective qui a changé. Un peu comme dans Matheson, I Am Legend, et où ça dépend de quelle perspective on regarde les choses. Si on le regarde de l'homme, c'est la fin du monde. Sinon, c'est juste le début de quelque chose d'autre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gérard Klein et Alain Musset?
Oui, tout à fait, parce que dans une grande partie de la littérature de science-fiction, plus spécialement américaine, en France, c'est assez différent. Enfin, en tout cas, dans la francophonie, c'est assez différent. Il y a une espèce de jubilation de la fin du monde. C'est l'occasion d'une table rase. On repart à zéro et on va faire un monde meilleur. Et dans beaucoup des histoires post-apocalyptiques nucléaires des années 50 et 1960, c'est un thème très important. Bon, sauf chez Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, lui, c'est pas de la tarte. C'est une vraie apocalypse nucléaire et ça débouche sur des choses très inquiétantes, presque aussi inquiétantes que l'apocalypse elle-même. Mais chez beaucoup d'autres auteurs, c'est l'occasion d'une remise des compteurs à zéro. On va reconstruire un monde carrément meilleur. Alors là, on trouve l'optimisme américain et l'optimisme technicien américain. En France, je pense par exemple à un très beau roman qui est La mort de la Terre de Ronnie Aimé. Alors, ce n'est pas la fin du monde à proprement parler, mais c'est la fin de l'espèce humaine qui va être remplacée par quelque chose d'autre. Qui n'a rien même de proprement biologique, enfin les ferro-magnéto. Et là où je souscris tout à fait au point de vue de mon voisin, c'est qu'en fait, c'est plutôt des successions, enfin des passages de témoins. La chute de Rome, Rome est d'ailleurs conquise par un général romain totalement romanisé, c'est plutôt un changement de régime et l'effondrement d'un certain mode de société centralisée. Mais l'histoire, y compris l'histoire romaine, continue. Le Moyen-Âge n'est pas la rupture fondamentale qu'on nous a trop souvent décrit, essentiellement au XIXe siècle. Je dirais même que je m'inscrirais en faux contre l'affirmation de Paul Valéry, nous, civilisations, savons que nous sommes mortels, etc., parce que nous retrouvons, notamment sur le terrain religieux, mais pas seulement, dans notre propre culture, dans notre propre société, des traces très présentes de la plus ancienne société égyptienne. L'Égypte nous a transmis des choses via la Grèce, via Rome, et l'immortalité de l'âme, par exemple, et qui sont toujours là. Alors c'est plutôt des changements, des mutations que toutes ces fins de monde particulier représentent que une grande table rase et la fin finale, quoi, la chute finale.
Oui, je pense que c'est important et je voudrais revenir sur l'idée de Rome. Il y a des images qui restent. Bon, c'est Babylone d'un côté avec Saint Jean et la chute de Rome qui imprègne les récits apocalyptiques et post-apocalyptiques qu'on va retrouver dans Asimov. Asimov lui-même dit, quand il parle de la chute de Trantor, l'Empire galactique, il s'est inspiré de l'histoire de Rome pour expliquer la chute de Trantor. On va retrouver les mêmes références, d'ailleurs, avec Dan Simmons et le cycle d'Endymion. Quand là, c'est Tocéti Central qui s'effondre, eh bien, c'est Rome qui est derrière. Et Rome, elle est toujours là. Elle est là aussi pour nous montrer que, effectivement, les civilisations sont destinées à périr et à se transformer. Et on va le retrouver aussi, dans Baxter, c'est dans Coalescence, qui alterne entre l'actualité et la chute de Rome. On est en Angleterre au moment où il n'y a plus les armées romaines, Les barbares qui étaient confinés derrière le mur d'Adrien commencent à entrer et ils se rendent compte petit à petit qu'effectivement ils connaissent la fin du monde, cette fin du monde qui passe par la disparition des villes. Les grandes villes sont abandonnées, les gens se retirent à la campagne, et même ceux qui restent des villes, ce sont des villes qui sont des villes de plus en plus rurales, tout comme finalement Rome s'est ruralisée après la chute de l'Empire, quand il n'y avait plus de contrôle ni politique ni social. Et donc cette image-là, elle est récurrente, on la retrouve dans les romans de science-fiction, et même, je dirais même plus loin, dans les représentations futures des villes détruites. C'est très intéressant au 19e siècle, parce qu'il y a déjà des récits de proto-science-fiction, on va dire. Quand, par exemple, Flammarion, en 1894, sort son livre sur la fin du monde, il y a un moment, une gravure qui représente Paris dans le futur. Et en fait, la gravure, ça ressemble vraiment aux ruines de Rome. Il y a des colonnes, et on est au 25e siècle et même au-delà du 25e siècle. Donc ces images de Rome sont tellement fortes qu'elles restent dans nos imaginaires et ça devient effectivement la ville, en tout cas d'une certaine apocalypse.
Justement, on va rester sur la chute de Rome avec Cinecittà. Excusez-moi pour l'accent. Est-ce que c'est aussi une chute de Rome, une certaine chute de Rome?
Sì, in Cinecittà c'è una sorta di inventario di catastrofi possibili.
In Cinecittà il y a come un inventaire de possibles catastrophes.
C'è la catastrofe climatica.
Il y a la catastrophe climatique.
Perché il clima cambia e tutti i romani scappano al nord.
Le climat change et tous les romans s'enfuient vers le nord.
C'è la catastrofe dell'invasione dello straniero, perché arrivano i cinesi e prendono possesso della città e vengono chiamati nuovi barbari.
Il y a la catastrophe de l'invasion de l'étranger parce que il y a les
chinois.
Les chinois qui arrivent et qui sont appelés les nouveaux barbares.
E poi infine c'è la catastrofe economica.
Et enfin, il y a la catastrophe économique
qui cambia i rapporti tra le persone e l'ordine sociale.
Qui change les rapports entre les gens et l'ordre, les personnes et l'ordre social.
Perché dal mio punto di vista l'aspetto più interessante e fondamentale della catastrofe dell'apocalisse è che l'evento tanto più è catastrofico per una società tanto più porta al caos, al disordine.
De mon point de vue, l'aspect le plus intéressant de l'apocalypse, c'est que l'événement plus il est chaotique, plus il est catastrophique, plus il amène au désordre.
Sì, tant'è che quando ero bambino, per me la catastrofe era un evento benvenuto tutte le volte che il giorno dopo a scuola avevo un'interrogazione per la quale non ero preparato, per cui pregavo Dio che il giorno dopo facesse venire l'Apocalisse in modo tale che non si doveva andare più a scuola e tutte le situazioni dell'ordine sociale non contavano più nulla.
En fait, quand j'étais enfant, pour moi, la catastrophe était un événement bienvenu parce que ça voulait dire que je ne serais pas interrogé le lendemain à l'école. Donc,
Une petite question. Alors justement, sur l'enfance, ça tombe bien. Dans l'anthologie des Utopiales, il y a une nouvelle où on trouve une classe d'enfants après une catastrophe nucléaire. Alors, c'est pas tout à fait une fin du monde. Et ce sont des enfants un petit peu différents. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que derrière cette nouvelle, donc on a une classe d'enfants avec une petite fille qui raconte, Tommaso Pinchot nous dit aussi beaucoup de choses sur l'Italie.
Sì, anche nel racconto, sì, effettivamente, che ho scritto per l'antologia di Utopial, c'è una catastrofe, la peggiore delle catastrofi che si possa immaginare da un punto di vista di conseguenze, che è la catastrofe nucleare, però anche in questo racconto si dimostra come di fatto il mondo non finisce, c'è una forma di adattamento anche alle cose peggiori, e quello che avviene è un sovvertimento dei vecchi valori, e quindi anche i bambini che patiscono più di tutti questo dramma trovano un modo alternativo e nuovo di vivere anche in un mondo distrutto dagli eventi nucleari.
Dans cette nouvelle aussi, bon, on trouve une catastrophe qui est la pire catastrophe qu'on puisse imaginer du point de vue des conséquences, c'est la catastrophe nucléaire. Mais là aussi, le monde ne finit pas. Il y a une adaptation de l'être humain même aux pires événements. Il y a un bouleversement des vieilles valeurs. Et même les enfants qui sont les plus touchés trouvent une manière alternative de continuer à vivre.
Gérard Klein, tout à l'heure, vous disiez, dans la science-fiction américaine, mais chez les Français, c'est un peu différent. Alors justement, qu'est-ce qui est différent en termes de fin du monde dans l'Hexagone ?
Ben, je crois que les fins du monde françaises, enfin, c'est toujours extrêmement difficile de généraliser, donc toute généralisation est fausse, donc ce que je vais dire est faux. Mais la tonalité me semble beaucoup plus pessimiste. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la science-fiction française depuis au moins le 19e siècle. L'avenir, c'est pas drôle. Je citais La mort de la Terre de René Aîné. Dans La mort de la Terre, l'humanité disparaît. C'est vraiment l'histoire du dernier homme. Et ce qui vient après n'a aucun rapport avec du vivant ni avec de l'humanité. Il y a ce caractère définitif. Bon, il y a d'autres, c'est pas exactement des fins du monde, mais sont presque des fins du monde. Dans le très fameux roman de Barjavel, Ravage, l'électricité a disparu, bon, pour une raison qui n'est pas expliquée, mais c'est pas le problème. Donc la civilisation technicienne que maudit Barjavel par ailleurs s'effondre, et il réapparaît, enfin, une société très archaïque, très primitive, dont le principal souci est surtout de pas bouger, de pas recommencer à un développement. Alors, j'ai un peu de mal à trouver des exemples multiples de ça, mais il me semble que dans la littérature française de science-fiction, Capri, c'est fini. quand c'est fini, c'est fini. Dans le cas d'Andrevon, dans un très beau texte, dans une très belle nouvelle, dont il a tiré d'ailleurs un roman intéressant qui est plus long, le monde enfin, la nature reprend ses droits, parce que l'humanité a totalement disparu, et manifestement ça réjouit mon ami Andrevon. Moi, ça ne me réjouit pas tellement, mais enfin. Donc il y a cette tonalité très sombre, très pessimiste d'une société qui est la société française et qui depuis longtemps n'a pas, sauf sursaut ou certains groupes sociaux, confiance dans son avenir.
Oui, je suis en grande partie d'accord avec ce que dit Gérard.
Non, totalité.
Mais je pense que les Américains ne sont pas tellement plus optimistes de mon côté. Et puis, alors, c'est vrai que Barjavel est un exemple, mais il faut le contextualiser aussi. Je ne vais pas oublier quand le roman est écrit et publié, c'est-à-dire en 1943. Barjavel est quelqu'un qui n'a jamais caché ses sympathies pétainistes. Et son roman est un roman surtout contre les villes. Et d'ailleurs, il utilise pour Paris, c'est Babylone. Et le héros, comment s'appelle le héros ? Il s'appelle François Deschamps. C'est pas un hasard non plus, c'est François le Français et Deschamps, c'est-à-dire de la campagne. Et on retourne à la campagne. Et ensuite, il devient François Deschamps, sorte de patriarche, qui devient chef de l'État. Et Pétain était chef de l'État français, n'oublions pas, c'était son titre. Et il interdit la reconstitution de noyaux urbains de plus de 2500 habitants parce qu'il considère que c'est mal. Donc il y a tout ce contexte là aussi de haine de la ville. qu'on va retrouver chez les Américains aussi, qui s'imprègnent de deux grands essayistes du début du 19e siècle, Thoreau et Emerson, qui condamnent la ville parce que la ville, ben, c'est Babylone, c'est le mal, etc. Et ce n'est que dans la nature qu'on va retrouver Dieu. Et c'est pas pour rien qu'ensuite c'est quelqu'un comme John Muir qui a lu Thoreau et Emerson, qui va être à l'initiative de la création des grands parcs nationaux américains. Là encore une fois, vraiment une politique anti-ville. Et finalement, moi, dans tous les bouquins que j'ai retrouvés, il n'y a qu'un seul livre nord-américain où il y a un vrai point de vue positif sur la ville. C'est Demain les chiens de Simak. Et c'est très intéressant parce que le bouquin s'appelle originellement City. En fait, c'est l'histoire de notre humanité quand il n'y a plus d'humanité et quand il y a des chiens intelligents qui sont à la surface de la planète et qui discutent de vieilles légendes sur l'existence des humains et l'existence des villes. Et il y a des chiens sociologues et des chiens historiens qui disent « Mais c'est absurde, la ville est un concept complètement idiot. Comment peut-on vivre dans des endroits aussi serrés avec autant de promiscuité? C'est pas possible. » Et le discours de Simak, c'est dire « Oui, voilà ce qui nous attend. » Parce que, en fait, on est en train de détruire ce qui fait le cœur même de notre civilisation, c'est-à-dire la ville. Civilisation, c'est Kiwitas, c'est la ville. En se dispersant, on va se détruire nous-mêmes. C'est donc un avis positif sur la ville, mais en même temps, un regard tout à fait négatif sur la société américaine qui aboutit à une décomposition du corps social. Donc ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Demain, les chiens est un très, très beau livre.
Oui, non, en ce qui concerne la ville, la fin des villes, soit. Mais je trouve quand même qu'il y a un bien plus grand optimisme, y compris dans Demain les chiens, chez les écrivains américains et dans une moindre mesure chez les Anglais que chez les Français. Parce que, à l'opposé de l'horizon politique de Barjavel, d'ailleurs, c'est jamais beaucoup engagé. Enfin, il était assez opportuniste intellectuellement. Alors, après-guerre, on n'était plus dans la guerre, il a continué à défendre les mêmes idées dans toute une flopée de romans. Mais donc, à l'opposé de cet horizon politique, il y a Régis Messac, et dans 15 Asili, et dans C'est la cité des asphyxiés. Bon, il y a aussi des fins du monde. Alors, Messac était, pour faire simple, disons, un homme de gauche, enfin, carrément anarchisant ou avec des sympathies anarchisantes. Mais il décrit, alors, dans le contexte de l'immédiate avant-guerre, où il est mort, enfin, il a été déporté à Nartod-Nebel, il a disparu totalement en 1945, il décrit donc une fin de la civilisation qui fait écho, en quelque sorte, à celle de Barjavel, et je crois qu'on pourrait multiplier dans la littérature française les exemples de cette nature qui sont des notes d'un pessimisme véritablement profond que je ne retrouve pas dans d'autres littératures. Je m'empresse d'ajouter que de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout français, parce que je ne partage pas ce pessimisme dans ce que j'ai pu écrire. Il n'y a rien de tel.
Et, pardon, juste pour faire une référence au roman de Thomas, à la nouvelle sur les enfants, hein, après, dans Kensensili, justement, c'est les enfants deviennent abominables. Ils assurent pas du tout l'avenir de l'humanité parce que finalement ils régressent dans un état de barbarie épouvantable. Donc la vision là est réellement pessimiste, tandis que chez Thomas, non, là heureusement finalement il reste toujours notre avenir. Juste une petite parenthèse pour dire que.
On le voit en fait, la fin du monde a une nationalité. En fait, elle a une couleur un petit peu différente en fonction des thématiques. On va poser une dernière question à Tommaso avant qu'il puisse filer, voire prendre son train. Est-ce qu'il y a une coloration de la fin du monde chez les écrivains italiens ?
Non direi, perché. In Italia purtroppo la fantascienza è un genere poco praticato, quindi non soltanto il tema dell'apocalisse, ma in generale la fantascienza rappresenta un'eccezione nella letteratura italiana.
Je dirais pas parce que in Italia la SF est un genre peu pratiqué, non seulement le thème de la science-fiction, de l'apocalypse, mais la science-fiction en général, c'est un peu une exception dans la littérature italienne.
Mi interessava comunque riprendere il discorso sviluppato dai nostri amici sul rapporto tra pessimismo e ottimismo dell'apocalisse.
Je voudrais quand même reprendre le discours sur le rapport entre pessimisme et optimisme de l'apocalypse.
Perché è molto vero che l'apocalisse spesso segna la fine dell'organizzazione della vita come la si intende nelle grandi città.
Parce que c'est vrai que l'apocalypse souvent marque la fin de l'organisation de la vie comme on l'entend dans les grandes villes.
E io credo che la ragione per cui la fantascienza americana è più ottimista di quella europea.
Je crois que la raison pour laquelle la science-fiction américaine est plus optimiste que celle européenne.
Risiede nel fatto che in America abbiamo sì delle grandi metropoli come New York e Los Angeles.
Ça vient du fait que en Amérique il y a bien des grandes métropoles comme New York ou Los Angeles.
Ma lo spirito della nazione è la grande frontiera, i grandi spazi aperti.
Mais l'esprit de la nation est la grande frontière, les grands espaces ouverts.
E l'idea dell'America risiede proprio nella capacità dell'individuo di mettersi a confronto con questi grandi spazi aperti e in qualche modo dominarli.
Et l'idée de l'Amérique, c'est justement dans la capacité de l'individu de se mettre en relation avec ces grands espaces ouverts et de les dominer.
Et si nous voulons la conquista de l'Ouest, de l'Amérique, est, comme dire, un mythe apocalyptique sans catastrophe.
En fait, la conquête du Ouest, de l'Amérique, est comme un mythe de l'apocalypse, mais sans catastrophe.
Et je crois, en fait, que ce qui est plus intéressant dans l'apocalypse, come modello narrativo è proprio la possibilità di fare emergere quelli che sono gli aspetti di una società, tanto le sue paure quanto i suoi sogni e le sue sicurezze.
Ce que je trouve plus intéressant dans l'apocalypse comme modèle narratif, c'est la possibilité de faire émerger les éléments de notre société tant dans ses rêves que dans ses faiblesses.
Ouais, je vous dis quelque chose. Enfin, je connais assez mal la science-fiction italienne et comme on vient de nous le dire, en plus, elle n'est pas très très développée. Mais moi, ce qui me frappe, alors je pense au peplum, par exemple, j'avais vu beaucoup, j'adore ça, au peplum italien. Et ce qui me frappe, c'est que il y a des fins du monde à toutes les fins de films, l'Atlantide, je ne sais pas combien de fois, enfin de ça. Mais il y a de façon très manifeste une ironie. L'Italien, si je peux parler d'une telle généralité, prend la fin du monde avec ironie, ce que je ne rencontre pas du tout en France. Enfin, chez Jacques Spitz, dans L'agonie du globe, dans Les évadés de l'an 3000, enfin des choses comme ça, bon, il y a une ironie parce que tout ce qu'écrit Spitz est ironique, mais cette ironie cache à peine une espèce de désespoir profond qui n'a rien à voir avec l'ironie que je crois déceler dans une certaine tradition italienne.
Però è verissimo questo, ma proprio perché voi francesi più di noi italiani avete un senso del civico e della società. Noi crediamo molto di meno di voi francesi nella società, nel vivere comune.
Ça c'est vrai, mais parce que vous français, vous avez un sens civique, un sens de la société beaucoup plus développé que nous.
Si je peux me permettre, il y a, j'arrive plus à me souvenir le nom de l'auteur, mais vous allez peut-être me le dire, celui qui a écrit La fine del mondo storto, c'est-à-dire la fin du monde qui s'est trompé. Je ne sais plus comment il s'appelle, il est sorti son bouquin il y a 2 ans. C'est assez amusant, donc il n'a pas été encore traduit en français, j'espère qu'il le sera. En fait, c'est un Barjavel, mais de gauche. Là aussi, c'est la fin du monde parce que les sources d'énergie disparaissent. On ne sait pas trop comment, comme l'électricité. Et les gens retournent à la campagne. Et donc, la thématique du retour à la campagne, c'est une thématique qui est récurrente hein, dans la science-fiction. Alors, pour le bien ou pour le mal, mais en tout cas, on retourne à la campagne. Et donc, ça change complètement les valeurs de la société parce que nos valeurs modernes, c'est l'urbain, les paysans sont considérés comme des idiots. Et là, les paysans deviennent les nouveaux maîtres du monde parce qu'eux, ils savent comment faire fonctionner la société. Et ça, Rousseau l'avait déjà dit d'ailleurs. Il avait dit « Je préfère trois paysans à plutôt que 40 universitaires. » Donc, c'est pas bon pour moi, mais bon, c'est une réalité. J'avoue que si je devais faire pousser des haricots, j'aurais du mal. Et le problème de la fin du monde, c'est que ça change les valeurs. On est obligé de changer de valeur et de replacer les valeurs originelles au centre. Et donc, ce sont les paysans qui reprennent un petit peu le contrôle. Alors, ensuite, il y a une autre dimension sur l'Amérique. Donc, c'est ce que je disais, effectivement, il y a une vieille mentalité nord-américaine qui est contre la ville de toute façon, même s'il y a des mégapoles comme New York ou comme d'autres. Ce qui est, je crois, frappant, c'est qu'on a tendance à oublier un certain nombre de choses. Par exemple, Penn, celui qui va fonder la Pennsylvanie, donc qui dirige tout un territoire, va interdire la construction de villes dans le territoire. Justement pour que les gens conservent les valeurs saines des paysans. Parce que dès qu'on commence à devenir urbain, on commence à penser un peu trop, et c'est pas bien. Donc on s'éloigne encore une fois de l'Église. Ah, c'est ce qu'il dit, hein, Penn. Oui. Et juste une dernière chose qui me paraît très très importante aussi, parce que là je suis obligé de pas être d'accord avec Thomas Asson, quand il parle de la conquête de l'Ouest en disant que c'est une apocalypse sans catastrophe. Sans catastrophe pour nous, les colonisateurs, hein, voilà, parce que la catastrophe pour les peuples amérindiens, elle existe. Hein. Il faut voir que c'est quand même un génocide abominable. Les survivants sont parqués dans des réserves, ils le sont toujours, même si on leur donne l'autorisation de faire des casinos pour vivre, c'est pas suffisant. Et il y a un chef indien, je me souviens plus comment il s'appelle, qui parlait de la statue de la liberté. Il disait c'est la statue de la liberté pour ceux qui arrivent. Mais pour nous, c'est la statue d'esclavage. Et là, je crois qu'il y a quand même une dimension. L'apocalypse, c'est aussi de quel côté on le regarde. Ça, c'est important aussi.
Mais, je veux dire deux choses. Dans le cas de... Enfin, pour autant que je sache, vous connaissez ça pour moi beaucoup mieux que moi, mais dans le cas de Penn, je ne suis pas sûr... Enfin, il était peut-être anti-urbain, mais surtout ce qu'il voulait... Non, anti-urbain, contre les villes, oui. Oui, mais là, ce qu'il voulait absolument éviter, c'était surtout une société centralisée avec un pouvoir central. Ça reste une, peut-être pas une dominante, mais un trait très fort de la société américaine. C'est une chose que les Européens comprennent très mal quand on leur parle des libertariens ou d'une partie de l'évolution du parti conservateur, enfin du parti républicain, comprennent très mal qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans la société américaine, qui est un certain refus du pouvoir central, c'est-à-dire l'État fédéral. La gestion des hommes doit se faire près des hommes. Et je crois que c'est quand même plus que contre la ville, contre l'idée d'un pouvoir, la crainte de voir s'installer un pouvoir centralisé que Penn posait, enfin, ses lois, c'est quand même quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans City avec l'idée des propriétés éloignées les unes des autres, enfin dans la nature, enfin etc. Alors quant au nettoyage par le vide des terrains conquis, bah, Rome, on connaît un bout, hein, il paraissait grand chose de Carthage et je ne sais plus quel autre. Pardon?
Oui. Non, mais il y a
Mais Carthage, c'est quand même emblématique. C'est bon. Le sel a été versé sur les ruines.
Mais les Romains en étaient eux-mêmes conscients. Je vous conseille de lire le De Agricola de Tacite, dans lequel il y a un très très beau discours. C'est le discours de Calgacus. Calgacus étant le dernier calédonien, enfin le dernier étant le dernier grand chef calédonien qui doit affronter les armées romaines, et ils disent nous sommes au bout du monde, nous sommes les derniers, les Romains ont tout conquis, et si jamais nous sommes conquis, ben, il n'y aura plus de liberté à la surface de la planète, Et il dit cette phrase qui est terrible, « Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant ». Peut-être que je vais traduire, hein, oui, peut-être. Hein, oui, donc, là où ils font le désert, voilà ce qu'ils appellent la paix. Hein, et effectivement, et c'est une très très belle... Voilà, c'est une très très belle phrase, et c'est quand même un historien latin, un des plus fameux, Tacite, qui dit cette phrase-là. Et je trouve que c'est quand même assez beau.
On va profiter peut-être de l'entre-deux questions. Vous devez peut-être y aller, Tommaso. Il est écart.
Très minutes.
Ok, d'accord. Très bien. Alors, simplement, peut-être pour sur ces fins du monde, est-ce qu'il y a une évolution des fins du monde à travers les époques? Est-ce que les années 60, on parle un peu plus d'apocalypse nucléaire et aujourd'hui peut-être un petit peu plus de catastrophes naturelles? Voilà. Est-ce que la catastrophe... Pardon? Oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une évolution dans la fin du monde?
Peut-être que Thomas...
Ouais. Tommaso?
Une évolution des... Io credo che il racconto dell'Apocalisse esiste soltanto quando c'è la possibilità di raccontare.
La narrazione dell'Apocalisse esiste solamente quando on a la possibilità di la raccontare.
Per esempio, abbiamo una grande letteratura sulla caduta di Roma.
Per esempio, on a beaucoup de une vaste littérature sur la chute de Rome.
Ma come dire, abbiamo pochissime testimonianze su come la catastrofe degli indiani d'America è stata vissuta.
Mais on a très peu de témoignages sur comment la catastrophe des Indiens d'Amérique a été vécue.
E senza racconto non esiste purtroppo l'Apocalisse.
Sans narration, il n'y a pas d'apocalypse.
Perché semplicemente esiste nulla.
Parce que il y a le néant.
Mi piacerebbe però fare, adesso spero di avere il tempo, un piccolo esempio sul modo di reagire ai grandi eventi catastrofici.
J'espère d'avoir le temps de faire un petit exemple, de donner un petit exemple sur le moyen de réagir aux événements catastrophiques.
Nel 1300 in Europa.
1300 in Europa.
Ci fu una grande epidemia,
una grande epidemia,
chiamata la morte nera,
appelée la mort noire,
di cui siamo venuti a conoscenza per lo più attraverso alcune fonti letterarie, in Italia specialmente attraverso il Decamerone di Boccaccio.
Dont on a appris l'existence en Italie et à travers des sources littéraires, surtout à travers le Decameron de Boccaccio.
Era una sorta di, come dire, di virus, di malattia infettiva, la cui mortalità era paragonabile a quella del morbillo di oggi.
C'était une espèce de virus, de maladie, dont la...
Il morbillo. La letalità di questa malattia della morte nera era paragonabile a quella del morbillo, quindi non era particolarmente letale.
C'était pas vraiment très mortel parce que c'était un peu comme les maladies d'enfance aujourd'hui.
E di questa epidemia, che pure causò molti morti all'epoca, non avremmo conoscenza se non avessimo avuto queste memorie, perché di fatto non si verificò nessuna fine della civiltà europea.
E di questa epidemia, che pourtant ha fatto beaucoup de morts à l'époque, on n'aurait rien su sans les sources littéraires.
Ecco, 200 anni dopo, nel Centro America, quando gli europei andarono in Centro America e portarono i loro bacilli, le loro malattie, gli amerindi furono sterminati e la loro civiltà, quasi una civiltà antica come quella degli Aztechi, dei Maya, sparì quasi del tutto per colpa di questi di una malattia che era non più letale del morbillo.
E 200 anni après, au centre de l'Amérique, quand les Européens amenèrent leur maladie, les Amérindiens furent exterminés pour des maladies qui ne sont pas si virulentes que ça en Europe.
La ragione per cui gli amerindi furono sterminati non fu la potenza della malattia.
Donc la raison pour laquelle ils ont été exterminés, c'est pas à cause de la maladie, de la force de la maladie.
Ma il modo in cui era stratificata la società.
Mais la façon dans laquelle la société était organisée.
Ecco. Perché la loro agricoltura era principalmente basata su cereali e tuberi.
Parce que leur agriculture était principalement basée sur les céréales.
E quindi, a differenza dell'agricoltura europea, non era abituata alle carestie.
Ils n'étaient pas habitués aux famines.
E la paura delle carestie porta alla stratificazione sociale, cioè a dividere i gruppi sociali in modo tale che quando qualcosa accade vengono colpiti alcuni gruppi, ma altri gruppi sopravvivono.
Donc cela porta a une organisation des groupes sociaux con cui certains groupes dans un cas pareil sont frappés, mais d'autres survivent.
Questo per dire che la catastrofe si può rivelare apocalittica soltanto nel momento in cui una determinata società non ha gli anticorpi per resistere all'evento catastrofico.
Donc la catastrophe devient apocalyptique seulement si une société n'a pas les anticorps pour pouvoir réagir à l'événement catastrophique.
Gérard,
pour revenir à la question de l'évolution des représentations des cataclysmes, je constate rien de tel. J'ai plutôt qu'il y a des modes un peu comme la jupe longue ou la jupe courte. Il y a eu des catastrophes. Par exemple, la catastrophe cosmique, c'est déjà présent dans la force mystérieuse de René Aîné. Alors il y a eu le temps du cataclysme nucléaire.
On fait juste une petite pause pour remercier Tommaso Pinchot qui doit. Merci beaucoup Tommaso. On peut l'applaudir. Il a été charmant tout le week-end. Merci beaucoup. Et merci à Séléné pour la traduction.
Donc je vois pas d'évolution, mais alors il y a un cataclysme, c'est Tommaso qui m'y faisait penser, il y a un cataclysme très particulier, parce qu'il est profond, et parce qu'il est d'origine humaine, c'est celui que décrit Frank Herbert dans La Mort Blanche. Alors dans La Mort Blanche, Frank Herbert imagine un généticien de génie, qui devient pratiquement fou parce que en Irlande, dans un attentat, sa femme et ses enfants sont tués. Et il décide que puisqu'il n'a plus d'enfants, plus personne n'en aura. Et il crée un virus, en tout cas un germe, qui va tuer d'une manière sélective les femmes. Si bien qu'on se retrouve très rapidement, au bout de quelques décennies, dans un monde où il n'y a presque plus de femmes. C'est alors c'est vraiment l'espèce humaine ne va pas pouvoir se reproduire. Bon, finalement ça en démarre à la fin, mais enfin c'est peut-être un peu une facilité littéraire. Donc c'est un cataclysme de type écologique et c'est un cataclysme déclenché par le terrorisme d'un terroriste qui a été lui-même jeté là-dedans par le terrorisme. C'est un roman tout à fait remarquable.
Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève là-bas. Est-ce qu'on a un micro? Hop, la jeune fille. Et puis après, hop, je vais venir vous le donner. Non, le micro arrive. Relevez la main, s'il vous plaît. C'est là.
Oui. Il paraît qu'une civilisation lointaine a prévu la fin du monde le 21 décembre prochain. Je sais pas, j'ai vu comme quelques signes qui annoncent vraiment cette fin du monde. Depuis quelques semaines, il n'arrête pas de pleuvoir. Les jours raccourcissent. Il faudra peut-être faire quelque chose, peut-être une fête de l'hiver, quelque chose qui ferait ressurgir un monde nouveau.
Ouais. Alors, si.
Là, alors, je vous rassure, hein, c'est normal que les jours raccourcissent. Et en général, en hiver, il fait pas beau. C'est même le contraire qui serait plutôt inquiétant. Alors, c'est vrai que l'intitulé de la table ronde, c'était « Est-ce que la fin du monde est pour dans un mois ?» Alors, je prends tout de suite le pari avec la salle que le 21 décembre, il n'y aura pas de fin du monde. Et je suis sûr de gagner. Parce que s'il n'y a pas de fin du monde, j'ai gagné. Et s'il y a fin du monde, je ne pourrais pas payer. Hein, donc, au moins, je suis garanti. Alors, je vous rassure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et beaucoup de stupidités depuis les années 70, depuis Frank Waters et José Arguello, qui ont travaillé sur le sixième monde de la conscience quand ils se sont rendus compte que la fin d'un compte long de 5124 ans allait se terminer aux alentours du 20 décembre 2012. Ils ont dit, eh ben, comme c'est un compte long qui se termine, ça va se terminer. Alors, un, c'est pas que les Mayas. C'est un calendrier qui est complètement méso-américain, c'est-à-dire il est valable pour toutes les civilisations du Mexique central et de l'ensemble de l'Amérique centrale aussi. Ça n'a pas de sens parce que c'est un compte, comme je dis, c'est un compte long de 1 872 000 jours à peu près, hein, mais qui est basé sur un système de calendrier très très complexe qui n'aboutit pas à la fin du monde, qui aboutit tout seulement à la fin d'un cycle. Et après, ça recommence. Ils ont une vision cyclique du temps, alors que nous, nous avons une vision complètement linéaire. Hein, donc c'est ça se termine et ça recommence. Donc ce n'est pas un problème. Et des fins du monde, il y en avait dans le compte le plus court tous les 52 ans. C'est-à-dire que tous les 52 ans, on faisait une cérémonie qui s'appelait la cérémonie du feu nouveau, hein, parce que c'était le moment où le calendrier sacré de 260 jours, 20-13aines ou 13-20aines, comme vous voulez, coïncidait avec le même jour que le calendrier solaire de 365 jours un quart. Donc là, ça arrivait tous les 52 ans. Et là, on se disait, est-ce que le soleil va repartir ? Et donc, on faisait une cérémonie, on rallumait le feu pour que le soleil, lui aussi, se ranime. Un petit peu comme dans ce célèbre film de science-fiction où on doit balancer des bombes atomiques dans le soleil pour qu'il reparte. On cachait les femmes enceintes parce qu'on ne savait jamais ce qui pouvait arriver. On cassait la vaisselle. Et évidemment, on faisait un petit sacrifice parce que ça ne fait jamais de mal de sacrifier quelqu'un. Hein, donc, voilà. Et donc, c'était tous les 52 ans chez les Aztèques. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va continuer. Hein.
Moi, je ne suis pas entièrement convaincu. Je ne suis pas entièrement rassuré par ce que vous venez de dire. Je pense que c'est méso-américain. C'est méso-américain. Donc, ça veut dire que c'est une fin du monde localisée. Ce qui va se passer, donc, est tout à fait clair. L'ensemble de l'Amérique centrale va s'effondrer dans l'océan. Donc je vais me précipiter à la bourse pour vendre mes actions du canal de Panama.
Il vaut mieux, c'est vrai, il vaut mieux, oui.
Il y avait encore une question pour monsieur.
Bonjour, en fait ce qui m'intéresserait sont les perspectives de crise écologique et les crises d'extinction. Donc il y a eu à 65 millions d'années une extinction qui a permis le développement des mammifères, grâce auxquels a priori nous sommes existants là et nous sommes des êtres humains. Actuellement, est-ce qu'on n'est pas quand même au bord d'une crise écologique du fait d'une incapacité des élites à voir que, comme les Mayas à une certaine époque, on surexploite nos ressources ?
Alors, je voudrais dire juste, excusez-moi parce que c'est très très pénible d'accuser tout le temps les Mayas, ils sont coupables de tout. Hein. Mel Gibson leur a fait beaucoup de mal avec Apocalypto, qui est un film qui est complètement faux. De bout en bout, hein. Il confond la période classique maya et la période post-classique, il mêle tout ça, il dit que les villes mayas avaient tout consumé sur leur passage et quand arrivent les Espagnols, Dieu merci, arrivent les Espagnols, ils vont sauver les mayas, mon œil. Il fait des descriptions qui ne correspondent pas du tout aux descriptions même des Espagnols, que j'ai travaillé sur le thème, hein, c'est mon sujet. Donc tous les Espagnols qui découvrent les villes mayas sont émerveillés par ces villes qui sont propres, qui sont saines, dans lesquelles il y a des jardins, dans lesquelles il y a un ramassage d'ordures, etc. Et eux qui viennent de l'Espagne médiévale, où tout est pourri, excusez-moi, c'est eux, normalement, qui devraient être apocalyptiques. Donc la vision de Mel Gibson est effroyable. Alors, qu'il y ait eu une crise écologique à la fin de l'époque classique dans l'ensemble de la Mésoamérique, oui, mais c'est pas
maintenant, hein, ce qu'on croit savoir, parce qu'il y a encore des hypothèses, c'est pas nécessairement une surexploitation des ressources, hein, mais c'est aussi un changement climatique global qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Guyane. Parce que, et donc vous voyez, c'est un phénomène beaucoup plus large. Alors ceci dit, il ne faut pas nous dédouaner. C'est pas parce que c'est pas entièrement la faute des Mayas qu'il y a eu la crise qui a abouti à la fin de la période classique. Vous dites, est-ce qu'on est au bord d'une crise écologique? Je dis non, on n'est pas au bord d'une crise écologique. On est dedans. On est dedans. Alors maintenant, après, vous dites les élites. Et les élites, c'est nous. Je regrette. C'est nous aussi. Hein, je dirais, si les citoyens ne font pas leur boulot, je ne vois pas pourquoi nos hommes politiques feraient le leur. Hein. Et puis, par ailleurs, n'oublions pas une chose qui est importante, c'est que quand je dis les élites, c'est les élites de la planète globale. Moi, je travaille en Amérique latine sur des quartiers pauvres de grandes villes. Je peux vous assurer que la crise écologique, la crise sociale, la crise politique, la crise humanitaire, ils la vivent depuis des décennies. Hein. Et quand on vit sur nos déchets, parce que c'est exactement ça, ce qui est un thème d'ailleurs de science-fiction qu'on retrouve très souvent et qui est un très très beau thème, ben, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Donc voilà, je veux dire, il y a aussi une prise de conscience et c'est trop facile autrement de dire ben, finalement c'est la faute du changement climatique. Le changement climatique, c'est nous et c'est nous aussi en tant que citoyens. Voilà, pardon.
Eh bien, c'est aussi la fin de la table ronde. Ah. Voilà, comme ça, on est parlé. Restez ici, il y a une autre table ronde qui commence et n'oubliez pas les dédicaces. Merci à tous.